Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Que se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
Ce lion vient de Gaza. Quand il est arrivé ici, il avait des cicatrices à cause des bombes qui étaient tombées près de son zoo.
Le lion sultan et les autres aussi accueillis en Jordanie. Le pays se targue d'accueillir les hommes, bien sûr, et les animaux victimes de la guerre, de leur offrir un abri. On vous fait visiter ce parc animalier très particulier. Ce sera l'escale reportage ce soir d'Un jour dans le monde, sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, dans les îles Chagos, près de l'île Maurice, une histoire incroyable au Canada. Et là où il fait bon vivre aussi dans le monde, 18h50, la chronique pour tous, signée ce soir Caroline Gillet, qui vous emmène à la rencontre de femmes européennes, à Tirana, à Liverpool et à Bruxelles. 18h55, Le Monde à l'envers, de Jean-Marc Four, avec la France qui regarde l'Algérie d'un œil assez inquiet quand même en ce moment. Avant cela, nous allons au Vietnam avant la grande rencontre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
L'avion de Donald Trump s'est donc posé à Hanoï cet après-midi. Kim Jong-un, lui, était déjà là au terme d'un très long périple à travers la Chine dans un train qui avançait à 60 km/h. Deuxième sommet donc entre les présidents américains et nord-coréens après suite Singapour qui a eu lieu en juin dernier. Bonsoir Antoine Bondaz.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de sécurité liées à la Chine et aux deux Corées. On a un peu du mal, Antoine Bondaz, à savoir si ce sommet, comme le précédent, c'est une photo pour l'histoire, donc une grosse com, ou si, enfin, il va y avoir un contenu, si ce sera le sommet du contenu. Est-ce qu'on le sait, si ce sera le sommet du contenu ou pas?
On l'espère. Le premier sommet, le sommet de Singapour, a quand même été important pour deux raisons. Premièrement, il a formalisé le format des négociations. Des négociations top-down, donc au plus haut niveau, niveau présidentiel. Mmh. Et puis, il a aussi permis de présenter des engagements. Il y a eu 4 engagements importants qui ont été pris à Singapour, notamment la question des nouvelles relations politiques, la question du régime de paix, la question de la dénucléarisation et puis le rapatriement du corps des soldats américains. Ce qui est très important à Hanoï, c'est de savoir si on va pouvoir concrétiser ces engagements et on va attendre évidemment les annonces qu'on peut espérer soit mercredi soir, soit jeudi matin.
Parce que quand même 9 mois, mais en termes de dénucléarisation, parce qu'au fond c'est surtout de ça dont on parle, alors pas seulement, on parle de paix et on va y venir, il ne s'est rien passé, si ? Il s'est passé vraiment quelque chose ou
pas ? Il ne s'est pas passé grand-chose. Concrètement, le moratoire des essais nucléaires et balistiques nord-coréens a débuté fin 2017, ça fait à peu près 450 jours qu'il n'y a pas eu d'essai, mais la Corée du Nord continue à avoir un programme nucléaire et balistique.
Et à produire, d'après ce que j'ai cru comprendre.
À produire, exactement, et les capacités nord-coréennes continuent de s'accroître. Et c'est un peu l'illusion nucléaire. On a l'impression, on pourrait avoir l'impression que parce qu'il n'y a pas d'essai, il n'y a plus de menace ou il n'y a plus de capacité. Or, les capacités sont plus importantes aujourd'hui qu'elle ne l'était en juin 2018.
Et pas seulement, puisque on a lu dans un rapport d'experts mandaté par l'ONU, si mes souvenirs sont bons, que Pyongyang était même un fournisseur d'armes majeur, notamment pour des pays comme la Syrie. Donc il n'y a pas seulement ce qu'on fait, le plutonium et le reste, mais il y a aussi tout ce qu'on fournit. Donc on a même l'impression qu'on est presque revenu en arrière, en fait.
Alors, on n'est pas forcément revenu en arrière, mais c'est vrai qu'au-delà de la question nucléaire et balistique, qui est la question la plus importante, la Corée du Nord a proliféré, historiquement, que ce soit des armes légères, et il y a des inquiétudes sur les armes chimiques, sur énormément de sujets. En tous les cas, ce qui est important de dire, c'est que la Corée du Nord continue d'essayer de contourner les sanctions internationales et le rapport dont vous faites mention est le rapport des experts de l'ONU, donc un rapport indépendant, précise bien que la Corée du Nord a désormais des logiques de plus en plus sophistiquées pour contourner ces sanctions.
Et en face, on entend un Donald Trump qui dit « Moi, je ne veux plus de tests, et d'ailleurs, je ne vois plus de tests, donc je suis content ». Est-ce que ça veut dire que les Américains ont revu leurs ambitions à la baisse, ou est-ce qu'ils sont en train de se faire manger par la Corée du Nord en ce moment ?
Alors, le président américain, en tout cas, lui, a revu ses ambitions à la baisse. Ce qui est important, c'est que la position de négociation des États-Unis, désormais, est d'avancer de façon simultanée et progressive, tant sur la question de la nucléarisation que sur la question du régime de paix et de la normalisation, in fine, des relations. L'objectif du président Trump, il faut bien le comprendre, n'est pas forcément une logique de non-prolifération, une logique stratégique. La logique, elle est avant tout politique. qu'est-ce que le président Trump peut obtenir de ce sommet dans un contexte très particulier qui est le début de la campagne des élections présidentielles de 2020 aux États-Unis.
Mais est-ce que réellement revenir en disant nous allons signer la paix, est-ce que vraiment ça aura un impact significatif? Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans quelque chose de purement symbolique? Parce qu'on se regarde en chien de faïence, effectivement vous avez raison, depuis plus de 60 ans, mais en soi il ne se passe rien de grave à part des tentatives et des essais. Donc est-ce que c'est si symbolique que ça de revenir avec une paix signée ou une promesse de signature?
Alors il y a quand même eu des événements extrêmement graves dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord et entre les deux Corées, notamment en 2010, le torpillage d'une corvette sud-coréenne et autres. Ce qui est très important, c'est est-ce que Donald Trump considère que sur le plan politique, vis-à-vis de sa base électorale, avancer sur la voie de la paix, entre guillemets, va lui être bénéfique.
Donc on est dans le pur symbole, en fait. J'ai fait la paix avec la Corée du Nord.
C'est ce qu'on entend depuis plusieurs semaines désormais. L'idée étant, et l'argument étant, Obama m'a légué une situation de crise, d'étension. Moi, le président Trump, j'ai amené la paix. Évidemment, ce n'est pas suffisant et c'est en quelque sorte la deuxième illusion. L'illusion qu'on pourrait décréter la paix alors qu'on a 70 années de crise et de tension et décréter la paix alors qu'il n'y a pas d'avancée sur la dénucléarisation.
Alors désormais d'ailleurs, Antoine Bonnaz, qu'est-ce que ça veut dire dénucléarisation au fond? Parce qu'on a bien compris que ce ne serait pas définitif, qu'il resterait toujours des résidus de quelque chose. Donc désormais, aux yeux des uns et des autres, qu'est-ce que ça veut dire dénucléarisation?
Alors l'objectif de la communauté internationale, tel que inscrit dans les résolutions du Conseil de sécurité, reste là. Le démantèlement complet, vérifiable et irréversible des capacités nucléaires et balistiques. Mais la dénucléarisation, c'est deux choses. C'est un processus et c'est une fin en soi. L'objectif à court terme, c'est d'avancer sur ce processus. Est-ce que la Corée du Nord peut être dénucléarisée dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent? Clairement pas. Est-ce qu'on peut avancer dans ce processus, par exemple en acceptant le retour des inspecteurs internationaux, c'est tout l'enjeu de ce sommet et on espère, la communauté internationale espère, qu'on avancera sur cette question-là.
Mais ça veut dire qu'on ne produit plus? Ça veut dire par exemple que la Corée peut s'engager à ne plus produire? Donc ce qu'on a vu y compris ces derniers mois depuis le sommet de juin n'existerait plus parce qu'il y a des inspecteurs qui sont là et qui regardent? Est-ce que ça veut dire qu'on promet de ne plus faire d'essais mais ça c'est déjà fait? Ça s'arrête où la ligne jaune comme on dit, elle est où?
Alors encore une fois, c'est une ligne, il y a la ligne du droit international qui est le démantèlement complet, et puis il y a ce processus. Le moratoire des essais ne signifie en rien, et on l'a rappelé tout à l'heure, un gel des programmes. L'objectif aujourd'hui, c'est de transformer ce gel des essais en un gel des programmes, c'est-à-dire ne plus produire de matières fissiles, ne plus assembler de bombes, ne plus produire de vecteurs, c'est-à-dire des missiles, qu'ils soient à courte portée ou à portée intercontinentale. Et puis, il y a une étape supplémentaire, l'étape d'après, c'est en quelque sorte commencer à démanteler encore une fois les installations d'enrichissement, les installations de production des bombes, les installations de production des missiles, les infrastructures, entre guillemets, qui sont toutes liées à ces programmes.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on dit de la Corée? On dit la Corée est toujours dangereuse, elle l'est tout autant qu'elle l'était. Est-ce qu'elle est moins? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Il y a eu un échange assez savoureux aux États-Unis avec Mike Pompeo. Pensez-vous que la Corée du Nord constitue une menace? Oui, répond Pompeo, alors que Donald Trump avait dit exactement le contraire. Donc on a l'impression que même, de toute façon, au sein de l'administration américaine, on ne sait pas où est la ligne jaune et on ne sait pas quoi penser de ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on dit qu'ils sont toujours dangereux ou pas alors?
C'est la grande différence entre le temps politique et le temps, entre guillemets, technique ou stratégique. Sur le plan politique, le président Trump a tout intérêt à présenter la crise nord-coréenne comme une crise résolue et à sous-estimer la menace nord-coréenne. Du point de vue de l'administration, des agences de renseignement, des agences militaires, la menace nord-coréenne, en quelque sorte, n'a jamais été aussi importante, puisque les capacités techniques de la Corée du Nord n'ont jamais été aussi importantes. Et donc, encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas seulement avoir un accord politique et l'illusion d'une résolution politique, c'est d'avancer concrètement sur la résolution de cette crise qui n'a que trop duré.
Antoine Bondaz, il y a autre chose quand même qui s'est passé pendant ces 9 mois, en dehors du fait, comme vous le disiez effectivement, que nucléairement parlant, les Coréens du Nord n'ont pas touché grand-chose. En revanche, ils se sont très sérieusement rapprochés de leurs voisins du Sud. Ils se sont aussi rapprochés des Chinois. Est-ce que ça change réellement des choses dans cette relation avec les Américains? Au fond, est-ce que ça affaiblit les demandes des Américains, puisque désormais, les Coréens sont moins isolés qu'ils pouvaient l'être il y a encore 9 mois?
Effectivement, la stratégie en 2017, c'était celle de la pression maximale de la communauté internationale. Du moment où la Corée du Nord déclenche un activisme diplomatique, que Kim Jong-un est reçu dans le monde entier et qu'il y a surtout une reprise de la coopération entre les deux Corées, ça rend ce front, entre guillemets, de pression maximale beaucoup plus compliqué. La limite à la réconciliation et à l'engagement intercoréen, c'est la question économique. Aujourd'hui, le gouvernement sud-coréen souhaiterait transformer cet engagement politique en engagement économique. Or, les sanctions internationales liées au programme nucléaire l'en empêchent. Et donc, l'objectif de la Corée du Sud, soutenu en cela par la Chine et évidemment par la Corée du Nord, c'est d'obtenir une levée partielle des sanctions. Encore une fois, pas une levée complète, mais une levée partielle. Et c'est notamment un des enjeux de ce sommet.
Est-ce que les sanctions pèsent toujours autant, d'ailleurs, sur la Corée du Nord? Ou est-ce que ce rapprochement avec les deux voisins fait qu'il y a aussi une forme de modus operandi qui fait que c'est moins lourd à porter pour les Coréens du Nord? Donc, moins de pression, encore une fois, pour les Américains.
Alors, pour l'instant, concrètement, les sanctions sont les mêmes qu'il y a un an. Alors, il peut y avoir la question de la mise en œuvre des sanctions. On sait que certains pays ne respectent pas forcément cette mise en œuvre stricte. Mais les sanctions ont un coût évident, économique, sur la Corée du Nord. Par contre, est-ce que ces sanctions vont conduire ou forcer la Corée du Nord à se dénucléariser? Ça, je n'en suis pas sûr. Et quand vous allez à Pyongyang, j'y étais encore une fois il y a quelques mois, vous avez une ville qui change, un modèle économique qui s'adapte. Et ce qui est très important
un
du point de vue du régime...
jusqu'à quel point?
C'est-à-dire, vous avez des entreprises privées qu'on met en avant, vous avez une initiative individuelle qui est davantage mise en avant, vous avez la volonté de s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose, c'est dynamique au sein du régime qui sont très importantes. Encore une fois, les sanctions ont un impact, mais elles sont nécessaires, mais elles sont insuffisantes à elles seules pour forcer la Corée du Nord à se dénucléariser.
Est-ce que dans l'idée des Nord-Coréens désormais, ce grand ennemi qu'est les États-Unis est devenu et moins le grand ennemi puisque aussi bien du côté coréen que côté américain, on met en scène cette amitié, etc. Est-ce que ça se sent dans la population nord-coréenne désormais ou pas?
Alors c'est la difficulté en termes de propagande. C'est notamment la petite sœur de Kim Jong-un, Kim Jong-un, qui s'occupe de ce volet-là. La Corée du Nord a besoin en quelque sorte d'un ennemi ou d'un adversaire. Les critiques se sont considérablement adoucies sur les États-Unis. Elles se sont un petit peu renforcées sur le Japon. Et on est en quelque sorte en train de changer d'adversaire. Le Japon a toujours été présenté comme un ennemi et un adversaire. On se rappelle de la période de la colonisation entre 1910 et 1945. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on dévie les attaques davantage sur le Japon que sur les États-Unis.
Et du coup, avec la bénédiction de la Corée du Sud, dans ces cas-là, ou pas?
Alors, la Corée du Sud a un rôle assez particulier, puisqu'il y a des tensions aujourd'hui très fortes entre Séoul et Tokyo, pourtant deux diplomaties, deux alliés des États-Unis. Vous aurez vendredi un événement extrêmement important à Séoul, ce sera le 100e anniversaire du mouvement de libération nationale, donc le 1er mars 1919, 1er mars 2019. Évidemment, ces commémorations auront un relent anti-japonais, et ce sera tout l'enjeu pour la Corée du Sud, de célébrer le nationalisme coréen en évitant d'attaquer trop frontalement le Japon.
Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Shinzo Abe a proposé lui-même Donald Trump pour le fameux prix Nobel de la paix? Alors on sait bien que ça n'arrivera pas, bien sûr, mais est-ce qu'on est dans cette espèce de guerre psychologique et d'influence entre Japon, Corée et États-Unis?
Alors, c'est un des facteurs. Le deuxième facteur, c'est que le Japon veut peser auprès des États-Unis, s'assurer que les Américains ne fassent pas un accord qui irait à l'encontre des intérêts japonais. Par exemple, si les Américains négociaient uniquement sur les missiles à longue portée qui peuvent frapper les États-Unis et non le Japon. Et puis les Japonais ont un cas très particulier puisqu'ils ont un dossier bilatéral extrêmement compliqué depuis plusieurs décennies, la question des enlèvements des citoyens japonais enlevés dans les années 70-80 par les services de renseignement nord-coréens. Certains avaient été rapatriés lors du premier sommet entre le Japon et la Corée du Nord en 2002, mais ça reste aujourd'hui dans les relations bilatérales entre Tokyo et Pyongyang la priorité. Le Premier ministre Abe s'est énormément investi sur cette question.
Est-ce qu'il peut y avoir, pour revenir en Corée, une sorte de donnant-donnant? On a parlé à un moment d'une sorte de réciprocité, en fait, c'est-à-dire la fin des manœuvres, notamment américaines, autour de la Corée, notamment de la Corée du Sud, contre une forme de dénucléarisation. Est-ce qu'il pourrait donner ça, Donald Trump, ce qui est quand même beaucoup?
Alors c'est compliqué, les manœuvres principales militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud ont été suspendues il y a déjà plusieurs mois. La Corée du Nord ne considère pas qu'elle, en échange, elle est prête à dénucléariser. Il y a un deuxième problème important, c'est que ces exercices militaires, très certainement, vont recommencer, en tout cas partiellement, peut-être de moindre envergure en Corée du Sud, pour une raison purement technique. Vous avez en Corée du Sud un service militaire qui dure entre 18 mois et 24 mois. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des conscrits qui ne se sont jamais entraînés, qui n'ont jamais fait d'exercice militaire de grande ampleur. Et donc l'armée sud-coréenne va être obligée, d'une façon ou d'une autre, de refaire des exercices avec les Américains. L'enjeu, à terme, ce sera donc de recommencer ces exercices, sans qu'ils aient un impact politique sur les relations et sur la réconciliation.
C'est compliqué de répondre évidemment à cette question à la veille de ce rendez-vous-là, et on a bien compris ce que vous nous disiez, notamment sur l'impact que cette rencontre peut avoir aux États-Unis pour Donald Trump, mais À votre avis, qui le gagne pour l'instant, cette espèce de face-à-face, d'amitié bizarre entre Kim et Trump? Qui gagne pour l'instant?
Pour l'instant, Kim Jong-un a beaucoup gagné. Il s'est crédibilisé. Il est devenu un leader presque respectable. On le voit aujourd'hui. Vous avez aux États-Unis, en Corée du Sud, je ne sais pas si on se rencontre, vraiment un intérêt énorme sur les moindres faits et gestes de ce dirigeant. Il s'est entre guillemets normalisé. Ça, c'est tout dans l'intérêt du régime nord-coréen. Donald Trump peut gagner à court terme. La question, c'est est-ce que les États-Unis et la communauté internationale, à long terme, seront capables de gagner? Et la priorité pour la communauté internationale, c'est évidemment d'avancer sur la question de la dénucléarisation.
Et on suit ça donc dans les deux jours qui viennent, et puis évidemment après, parce que tout ça restera, ne se lira pas, j'imagine, comme dans un livre ouvert après la rencontre. Merci beaucoup.
Merci.
Antoine Bondaz, merci de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite ce soir, ça se passe en Jordanie, qui accueille 3 millions de réfugiés, ça vous le savez, mais aussi des animaux réfugiés des zones de guerre dont les zoos ont été détruits sous les radars. Et Amélie Perrier qui nous présente notamment la nouvelle coqueluche de la politique canadienne, c'est un Sikh pratiquant jeune assez rock'n'roll, vous verrez. La chronique pour tous est signée Caroline Gillet ce soir. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Et on parle de quoi?
Alors cette semaine, j'ai rencontré 3 jeunes femmes de Tirana, Liverpool et Bruxelles. Toutes ressentent le poids de l'histoire, communiste ou coloniale, dans leur vie amoureuses, et elles veulent qu'on s'en émancipe.
Et on verra ça donc ensemble. À tout de suite, le monde à l'envers. Jean-Marc Faux, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec l'Algérie qui manifeste, ça c'est vrai, mais la France qui regarde ça un peu inquiète quand même.
La France serait-elle favorable à l'immobilisme d'un président grabataire?
Et vous nous direz ça tout à l'heure autour de 18h55. À tout de suite, le tour de la planète continue. Il passe par Los Angeles avec les Canned Hits, figurez-vous, sur France Inter. Ça a passé la cinquantaine, mais ça reste pas mal. Allez. Qu'est-ce que vous racontez, Amélie Perrier? N'importe quoi.
France Inter.
Good evening and welcome.
Il размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Voilà, de toute façon, c'est toujours votre faute. Allez, un petit archipel fait plier le Royaume-Uni.
Vous rappelez peut-être ce témoignage déchirant d'une femme originaire des îles Chagos. Elle s'appelle Marie Lisby Élisée. Et en septembre dernier, elle témoignait devant la Cour internationale de justice.
Et mes larmes collaient tous les jours, mon mariné.
Je suis si triste, dit-elle, je verse des larmes chaque jour. Je dois retourner dans mon île. Je dis que je dois retourner dans l'île où je suis née et je dois mourir là-bas, là où mes parents ont été enterrés, là où mes grands-parents ont été enterrés. C'est notre île natale. Voilà les larmes de Marie Lisby Élysée. La Cour internationale de justice vient de donner raison à cet habitant, à cette native des îles Chagos et à tous ses compatriotes. Car les habitants des Chagos, les Chagossiens, vont pouvoir rentrer chez eux après un exil forcé de 5 décennies. En fait, en 1965, le Royaume-Uni a décidé de séparer l'île Maurice de cet archipel de l'océan Indien pour y installer une base militaire commune avec les États-Unis. Alors la base va jouer un rôle stratégique pendant la guerre froide, mais aussi pendant les conflits en Irak et en Afghanistan. Le pouvoir mauricien a toujours considéré que les Britanniques avaient démembré son territoire. Lors des audiences en septembre, Londres avait exprimé ses regrets, je cite, pour la manière honteuse dont les habitants des Chagos ont été traités. Mais le Royaume-Uni rejetait aussi la saisie de la Cour. Aujourd'hui, l'île Maurice et les Chagossiens se réjouissent de la vie de la CIJ. Elle déclare que le Royaume-Uni doit mettre fin à son administration des Chagos. La vie n'est pas contraignante, mais hautement symbolique et va mettre la pression diplomatique sur le Royaume-Uni, déjà bien isolé par le Brexit notamment.
Et voici quelqu'un qui peut-être est le futur visage du Canada.
Alors son nom, c'est Jagmeet Singh, c'est le nouveau chef du SPD. Il ne passe pas inaperçu, il porte tous les signes apparents de sa religion. Né au Canada, de parents indiens, il est sikh pratiquant, il arbore une barbe, le kirpan, vous savez, c'est ce poignard symbolique porté à la ceinture, et le turban, souvent d'une couleur différente.
Pour moi, c'était une occasion de désarmer les préjugés. Et j'adore les couleurs. Si vous regardez quelqu'un avec une barbe et turban, il y a une image dans la tête. Mais si vous regardez quelqu'un avec un turban rose, vous pensez, oh, c'est cool, sa couleur.
La couleur n'a pas d'importance. C'est vous qui décidez.
Non, c'est cool comme ça.
Voilà, c'est cool. Jagmeet
Singh. Turban rose, c'est cool.
Ouais. Il en a des verts, des bleus, des jaunes, toutes les couleurs. Entre tradition donc et jeunesse décomplexée ici à la télé canadienne. Alors le chef du NPD, NPD, très cool car il a remporté hier une élection partielle cruciale pour lui en Colombie-Britannique, la province la plus à l'ouest du Canada. Il fallait qu'il gagne ce siège de député à la Chambre des communes pour espérer conduire le nouveau parti démocrate lors des prochaines élections générales cet automne. C'est chose faite. Et cela pourrait lui permettre donc de faire taire ses détracteurs, y compris dans son mouvement. Depuis qu'il arrivait à sa tête, le NPD a chuté dans les sondages. Le parti croule sous les dettes. Beaucoup de ses députés ne se représenteront pas. Alors, parmi ces défis, il y a les liens à renouer avec le Québec. Il s'exprime d'ailleurs très souvent en français, y compris hier lors de sa victoire en Colombie-Britannique.
Allez, une question à Amélie. Pour finir, où fait-il bon vivre sur la planète?
Alors, Bloomberg publie son classement des pays de la planète du plus sain à celui où l'on risque le plus pour sa santé. Sur le podium, l'Espagne est le pays où l'on vit le mieux, suivent l'Italie, l'Islande et le Japon. La France, elle est 12e. Le classement prend en compte l'espérance de vie, il pénalise le tabagisme et l'obésité et prend en compte également les facteurs environnementaux comme l'accès à l'eau potable. Et la Russie, elle s'inquiète car elle apparaît à la 95e place sur 170.
La vodka joue un rôle bien plus important dans la vie d'un Russe que dans celle d'un Européen. À l'exception des Finlandais, peut-être. Le problème réside dans la continentalité du climat et de la société. Les gens se méfient les uns des autres. Quand on rencontre un inconnu, on s'attend toujours au pire. C'est pourquoi toute relation a besoin d'être aidée.
Aidé par la vodka.
Bah oui. Bon sang, mais c'est bien sûr. T'as pas d'amis, moi de la vodka.
Exactement. C'est un documentaire de la RTS qui s'appelait Le fléau de la vodka en Russie. Mais l'alcool n'est pas le seul péril pour la santé des Russes. D'ailleurs, sa consommation baisse un petit peu. En fait, la Russie est touchée par autre chose, par l'obésité, avec la junk food. Désormais dans les habitudes des Russes, nous dit le Moscow Times. De la vodka au cheeseburger, la fin de la guerre froide et la mondialisation, c'est ça aussi.
Je vous dis pas du cheeseburger à la vodka. Franchement, c'est terrible. Allez, Amélie. À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Jordanie, avec un lion lui-même, que vous entendez, que nous emmène l'escale reportage ce soir. Un pays entouré de zones de conflit, ça je ne vous l'apprends pas, et qui accueille, vous le savez aussi, des milliers de réfugiés, plus de 3 millions, des Syriens et des Palestiniens, évidemment, principalement. Voilà, pour les hommes, c'est évidemment le plus important, mais vous vous souvenez peut-être que le mois dernier, on vous a parlé ici même d'un vétérinaire qui sauve les animaux dans les zones de guerre. Eh bien, c'est un peu la suite, parce que qu'est-ce qu'on fait des animaux ensuite? Eh bien, il faut bien qu'ils soient réfugiés quelque part. Voici des bêtes qui vivaient justement dans des zones laissées à l'abandon ou détruites par les combats. Bonjour Jérôme Boruzewski.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir, vous nous emmenez plutôt au centre animalier d'Almaya. C'est au nord de la Jordanie, 23 animaux et tous réfugiés, Jérôme.
Sultan montre les crocs, il a le poil luisant, il semble en excellente santé. C'est un lion âgé de 9 ans. Munjid le connaît bien. Ce matin-là, il change la paille dans l'abri du fauve.
Ce lion vient de Gaza. Quand il est arrivé ici, il avait des cicatrices à cause des bombes qui étaient tombées près de son zoo. Maintenant, il va mieux. Mais s'il entend un avion dans le ciel, alors il court immédiatement dans son abri pour se cacher. Il a encore un peu peur.
À côté de l'espace réservé à Sultan, un vaste enclos entouré d'un grillage de plus de 4 mètres de haut où 4 lions se font dorer au soleil. Ils viennent du zoo d'Alep, en Syrie, un zoo laissé à l'abandon alors que la guerre faisait rage. Mustafa Khlaissat gère le centre d'Al-Mawa.
Le propriétaire du zoo d'Alep a dit qu'il y avait 200 animaux dans son zoo. Il n'y en avait plus que 14 quand l'équipe de sauveteurs est arrivée. Vous imaginez donc le nombre des animaux qui sont morts parce que le propriétaire ne pouvait pas se déplacer pour leur donner les soins nécessaires, la nourriture et l'eau. Quand les sauveteurs sont arrivés, les animaux avaient soif. Certains vivaient dans leur enclos avec d'autres animaux morts. Certains étaient forcés de les dévorer pour survivre. D'autres devaient manger leurs propres excréments. C'est le problème avec les animaux en captivité. Il faut leur donner les soins dont ils ont besoin.
Des vétérinaires ont ensuite dû convoyer ces lions en dehors de la Syrie par la route et par avion. Une tâche difficile.
Toutes les frontières étaient fermées. Quand les secouristes ont chargé les animaux pour les transporter, ils ont été suivis par des groupes de combattants. Ils ont été menacés par des hommes armés. Le commerce des animaux est un commerce juteux, le troisième le plus lucratif dans le monde, après ceux des armes et des drogues. Les gens qui ne respectent pas l'humanité ne respectent pas le bien-être des animaux non plus.
28 personnes travaillent à Al-Mawa pour s'occuper de 23 animaux. Elles communiquent par talkie-walkie car le centre animalier est vaste. Il s'étend sur 110 hectares, au sommet d'une colline située à 1200 mètres d'altitude, parfois enneigée l'hiver et bien à l'écart des villes et villages. Une sorte de camp de réfugiés pour animaux en danger. Un peu plus loin, Saïf lance de gros morceaux de viande de mouton par-dessus les grillages des enclos.
Nous savons quelle quantité donner à chacun. Cela dépend du poids et de la santé de l'animal. Nous nourrissons les fauves 3 fois par semaine, le dimanche, le mardi et le jeudi. Par exemple, Maxi, nous leur donnons 14 kilos de viande à chaque fois. Mais Simba, elle, nous lui donnons moins de 10 kilos de viande. Vous voyez, ils ont beaucoup d'espace, de grands terrains pour eux. Et progressivement, ils perdent le stress qu'ils avaient accumulé.
Tous ces soins ont bien sûr un coût élevé, mais d'après Malek Trela, le directeur du centre d'Al-Mawa, le fonctionnement du sanctuaire n'est pas en danger. 6 nouveaux animaux devraient d'ailleurs arriver prochainement, 3 lionceaux et 3 ours.
Notre budget est compris entre 370 000 à 500 000 euros, même plus. Ce n'est pas simple, mais nous parvenons à lever des fonds pour financer nos activités. Nous recevons beaucoup de soutien des autorités locales, des gouverneurs de Jerash et de Souf. Cela nous aide beaucoup. Il est surprenant de constater que les gens se préoccupent des animaux. Cela montre la nature positive des êtres humains.
C'est d'ailleurs une grande fierté pour beaucoup d'employés jordaniens du centre qui sont heureux d'offrir un morceau de la terre de leur pays à ces animaux en danger, comme pour Mustafa Khlaissat.
Au fil des ans, la Jordanie a toujours accueilli des gens en provenance de différentes zones de guerre. Le pays a ouvert ses portes à l'humanité. Cela fait partie de notre mission en tant que Jordaniens. Nous accueillons toujours tout le monde. Qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux, nous les traitons avec soin et nous les accueillons pour qu'ils mènent une vie paisible ici.
Le centre relâche certains animaux dans la nature quand cela est possible. Des loups, des hyènes et des tortues ont ainsi été remis en liberté en Jordanie, où ces espèces vivent naturellement à l'état sauvage. Les fauves, eux, sont envoyés dans des parcs animaliers en Afrique ou restent tout simplement sur la colline d'Al-Mawa, dans le nord de la Jordanie.
Ah ben le voilà, est-ce qu'on peut entendre Sultan, le roi lion ? Ouais, salut Sultan, c'est un plaisir et merci de ton passage dans Un jour dans le monde. Allez, Jérôme Borusewski pour Un jour dans le monde, merci beaucoup Jérôme. Ne changez rien, voici Vampire Weekend sur France Inter, Harmony Home. We took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing, sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Week-end dans le 18-20 sur France Inter, et c'est tant mieux. Harmony Hall, la chronique pour tous ce soir est signée Caroline Gillet et c'est maintenant.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
We're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Parce qu'un homme sur deux est une femme, c'est nous comme chez les autres ce soir, Caroline. Vous avez un œil sur les femmes d'Europe, puisque l'Europe c'est un peu votre jardin.
Et oui.
Qu'est-ce que vous avez lu, vu, entendu cette semaine ?
Alors j'ai entendu beaucoup d'histoires de sexualité et de rencontres amoureuses de vingtenaires sur le continent. Je vais vous parler de trois jeunes filles, l'une à Liverpool, l'autre à Bruxelles, la troisième à Tirana. Et c'est là qu'on commence en Albanie. J'ai appelé Iva sur Skype, elle a 26 ans. Elle a participé aux récentes manifestations dans la capitale albanaise pour protester contre la dégradation des conditions à la fac. Sur les vidéos en ligne, on voit beaucoup de jeunes hommes, mais encore plus de jeunes femmes qui, sur les grilles, debout avec des pancartes devant le ministère de l'Éducation, exigent un changement. Je vois pas Iva, mais je sais qu'elle devait être là. Elle veut que ça bouge, dans l'éducation, oui, mais aussi au-delà de ça, dans le rapport entre hommes et femmes. Iva dit que la majorité des garçons albanais ne participent pas aux tâches de ménage. Et comme depuis un an, il y a Tinder en Albanie, elle a réfléchi à une liste savoureuse pour éviter les machistes sur les applications de rencontres. La voilà, c'est cadeau.
S'il y a des mecs sans le t-shirt qui montrent les muscles, non. C'est trop narcissique, ça me plaît pas du tout. Si t'as que des selfies, non. Après, s'il y a de la nature dans les photos, c'est ok.
Pourquoi ?
Les gens qui mettent un peu de la nature, je crois qu'ils sont moins matérialistes.
Voilà, bah comme ça on est prévenu. Alors est-ce que ses parents savent qu'elle est sur Tinder ?
Non, elle dit qu'ils en mourraient, qu'il y a vraiment un énorme fossé entre générations, entre ceux qui ont connu ou pas le communisme. Alors je parlais à Jolka Penotet, qui est psychanalyste, et qui me disait que les non-dits de l'époque totalitaire, ils étaient encore très présents, parce que longtemps, pour ne pas prendre de risques, il y a une langue de bois, pas dans les familles, mais à l'extérieur surtout, les gens répétaient les mêmes phrases, creuses comme des automatismes, et cette langue de bois, elle a imprégné les corps et la sexualité. Mais Jolka est aussi prof à la fac, où il y a une majorité de filles, et elle dit que ça commence à bouleverser les rapports amoureux. Et ce poids de l'histoire, et comment il peut peser sur les corps dans un pays, il est aussi en question pour Dalia Gérial. Dalia, je l'avais rencontrée à Liverpool, elle est doctorante, elle a 25 ans, des grands-parents égyptiens, des cheveux frisés, elle est assez petite, très vibrante, et elle s'est un jour demandé si avec l'histoire du colonialisme, les filles qui lui ressemblaient, elles n'étaient pas moins objets d'amour que de fétichisme.
J'avais le sentiment d'être complètement invisible d'un point de vue sentimental ou amoureux. Si on pense par exemple aux films romantiques, ce sont toujours des femmes blanches qui sont au centre des sentiments amoureux. Mais d'un autre côté, il y a de la fétichisation et de l'exotisme. Ton corps devient le support de beaucoup de stéréotypes sur ta sexualité, plutôt que d'être quelque chose qui t'appartient vraiment. Par exemple, quelque chose que j'entends souvent, c'est que des mecs veulent coucher avec moi juste pour voir ce que c'est de coucher avec une femme noire. Il y a aussi cette impression, surtout quand on sort avec un homme blanc, que, ok, on peut être une petite copine, mais quand il s'agit d'être présenté à la famille, c'est beaucoup plus difficile. Ces expériences personnelles m'ont mené à la conclusion que l'amour n'est pas juste quelque chose dans lequel tu tombes par hasard ou involontairement, mais que les personnes sont codées différemment pour aimer de manière différente.
Et ce ressenti, c'est aussi celui de Kiskeya, qui est belge et afro-descendante. Et elle lançait jeudi dernier à Paris sa série Extra Nostro, créée pour le web, une série afro-queer.
Et c'est d'ailleurs la première dans le monde francophone.
Oui, la première en Europe même, me dit-elle. Et on y voit des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des métis, des hétéros, des homos. Leur genre, leur sexualité n'est pas du tout le sujet. Personne n'est au-dessus. Les rapports de domination n'existent pas. Et libéré de ça, on peut se concentrer sur leurs histoires.
J'ai un invité surprise pour toi.
Oh, Oliver.
Oliver, joli nom.
Merci.
Un compliment en moins de 2 minutes. Ça s'annonce bien.
Kiss a fantasmé un monde qui n'existe pas encore tout à fait, mais elle se dit qu'à force de le montrer dans la fiction, ça peut devenir vrai, ça peut prendre vie. Un peu comme les Suédois, je lisais dans Slate, qu'ils ont enfin formé un gouvernement la semaine dernière. Le Premier ministre est reconduit. C'est lui qui avait proposé en 2014 que la Suède soit le premier pays à adopter une politique extérieure féministe, en mettant la promotion des droits des femmes au cœur de son programme diplomatique. Avoir une politique extérieure féministe, ça n'a pas éradiqué le sexisme en Suède et au-delà, ça saurait. Mais écrire des fantasmes dans la fiction, dans les séries ou en politique, c'est peut-être une première étape pour qu'elles adviennent dans la réalité.
Allez, chiche, que c'est la première étape. Caroline Gillet, merci beaucoup. On vous retrouve dimanche, tiens, tant qu'à faire, Caroline, 13h20, full continental.
C'est ça.
Et voilà.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, à un mois et demi des élections en Algérie, les manifestations ont repris de plus belle aujourd'hui contre un 5e mandat de Bouteflika. La France reste très silencieuse sur le sujet. Cette prudence peut relever de la sagesse mais aussi de l'erreur et c'est votre Monde à l'envers.
Aucun commentaire officiel. Silence radio. Paris observe et ne dit rien alors que le mouvement grossit de jour en jour. Aujourd'hui, on l'a entendu dans le journal de 18h, des milliers d'étudiants ont défilé dans toutes les grandes villes. Alger, Constantine, Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, etc. Et de nouveaux rassemblements encore plus importants sont annoncés vendredi et dimanche, vu que dimanche, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures à la présidentielle du 19 avril. Le mouvement répond à un seul slogan, y en a marre, non à un 5e mandat. Et franchement, on les comprend, ces Algériens qui descendent dans la rue, puisque la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, sourd et grabataire depuis 6 ans, est une mascarade. Face à d'autres pays, on pense par exemple au Venezuela, la France ne se prive pas de commenter des situations politiques intérieures, mais là, rien. L'Élysée renvoie sur le Quai d'Orsay, qui se tait, hormis le très classique conseil aux voyageurs, tenez-vous à l'écart des manifestations. D'abord, On se dit que ce silence est sagesse, vu notre histoire commune. La France ne veut pas être soupçonnée d'ingérence dans les affaires intérieures algériennes. Alger, à juste titre, ne le supporterait pas. Mais ce silence est plus qu'un silence. Il cache mal une inquiétude et donc une forme de conservatisme. Si seulement rien ne bougeait en Algérie, voilà ce qui arrangerait Paris.
Sauf que ce n'est pas un défaut, non, d'être inquiet, si ?
Non, c'est vrai, parce qu'il y a des raisons, de fait, de craindre les effets en chaîne d'une déstabilisation dans le pays. La première crainte française, c'est le mouvement migratoire massif. Les binationaux franco-algériens sont environ 1 million. Autant dire qu'avec les regroupements familiaux, ce sont des mouvements très importants de population qui peuvent se produire. Et les jeunes Algériens, la moitié de la population à moins de 20 ans, sont nombreux à vouloir émigrer vers la France, on le sait. La deuxième crainte est géopolitique. L'Algérie, c'est un pôle de stabilité dans une zone dangereuse. La Libye à l'est, le Sahel au sud, avec cette immense zone frontalière au cœur du Sahara. Donc, vu de Paris, l'Algérie, c'est un peu une zone tampon qui nous sépare des groupes terroristes et un allié aussi dans la coopération militaire contre les islamistes. Ajoutons dans le paysage le paramètre économique, le gaz algérien représente 10% de nos importations en gaz naturel. Et enfin, l'incertitude sur la succession d'Abdelaziz Bouteflika. L'opacité est telle au sein du pouvoir algérien que personne ne sait qui sortirait du chapeau dans la négociation entre militaires, oligarques, proches du président, cadres du FLN. Résultat des courses, Paris préfère donc le statu quo, de peur que la suite ce soit le chaos. Mais ça conduit donc implicitement à soutenir un impotent grabataire et ça pose question.
Donc ça pose question, d'accord, mais vous iriez jusqu'à dire que ça peut être aussi une erreur ?
Oui, ça peut être une erreur. Un diplomate français qui connaît bien l'Algérie déplore, je cite, « une absence de vision stratégique de la France sur le sujet ». Un manque d'audace, une absence de pari sur l'avenir, si vous voulez, et sur la jeunesse. Parce que la suite, ça ne sera pas nécessairement pire, ça peut aussi être meilleur, c'est possible. Une grande partie de la classe politique française conserve un logiciel assez daté sur l'Algérie. La gauche pense encore façon Guy Mollet, 4e République. La droite de façon de Gaulle. Alors Emmanuel Macron, parce qu'il est plus jeune, raisonne différemment, mais il n'a pas enclenché de bouleversement dans la pratique. Ce que les jeunes Algériens attendent, c'est d'abord du travail, des opportunités économiques, et la France, au fil des ans, fait l'inverse. Elle se désengage. Nos entreprises ne représentent plus que 10% des investissements étrangers en Algérie, à peine devant l'Italie et l'Espagne, et alors très loin derrière la Chine, 20%, omniprésente avec la téléphonie, l'extraction de phosphate, les projets portuaires. Il n'y a pas de stratégie à long terme sur l'après Bouteflika, pas de stratégie française, ni de stratégie européenne. C'est comme ça que Paris emboîte le pas au pouvoir algérien, le choix de l'immobilisme, le grabataire à la présidence. Vous savez, pour finir, quelle est la blague préférée des Algériens ?
Allez-y.
Le pouvoir a deux plans. Plan A comme Abdelaziz, plan B comme Bouteflika.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Merci Jean-Marc, on se retrouve demain le 18-20, la suite juste après ça.